Matière à penser, René Friedman.
Matière à penser, une émission de René Friedman en partenariat avec le quotidien du médecin. Et aujourd'hui, pour cette dernière émission de notre série Modernisation du système de santé, j'ai le plaisir de recevoir Adrien Taquet, secrétaire d'État auprès du ministre des Solidarités et de la Santé, en charge de la mise en place de la stratégie pour la protection de l'enfance. Bonsoir Adrien Taquet.
Bonsoir à vous.
Merci d'être venu pour que nous abordions effectivement dans le domaine de transformation de la santé. Il n'y a pas que la loi santé 2022 qui est pourtant et que nous avons déjà un peu discuté ici. Mais il y a justement cet angle d'attaque qui semble être important au point qu'un ministère a été créé, votre secrétariat d'État, depuis 4 mois, et qu'il y a d'autres secrétaires d'ailleurs qui sont aussi un peu sur un chemin proche, comme je dirais votre collègue
Christelle Dubos, qui est auprès de d'Agnès Buzyn de la même façon.
Voilà, donc ça veut dire qu'il y a une volonté apparemment de transformer les choses, et c'est pourquoi j'ai le plaisir de vous inviter. Vous êtes un passé communicant, on va dire, puisque vous avez travaillé dans plusieurs agences de publicité. Alors il y en a une qui m'a fait rire, celle que vous avez créée avec Gabriel Gauthier, puisque vous l'avez appelé Jésus et Gabriel. Et donc évidemment ma question c'est de savoir qui est Jésus. Gabriel c'est Gauthier.
Si Gabriel c'est Gauthier, Jésus serait moi, mais on serait bien présomptueux de dire ça. Mais déjà vous voyez l'histoire d'un petit enfant. Déjà à l'époque,
on peut dire,
un petit Jésus.
On peut dire que vous aviez effectivement montré le signal. Donc vous êtes député LREM et vous êtes des Hauts-de-Seine et vous avez déjà fait vos traces, on va dire, sur la thématique du handicap, qui a toujours été un point fort dans votre action en général.
J'ai beaucoup travaillé sur le handicap en étant député, effectivement, pendant les 2 premières années de mon mandat, et c'est mon premier mandat. C'est mon premier mandat. Et d'ailleurs dans la question de l'enfance qu'on va aborder, notamment de l'aide sociale à l'enfance, qui est notre système un peu institutionnel de protection des enfants en danger, on retrouve la question du handicap, puisque 25% des enfants protégés par l'aide sociale à l'enfance sont en situation de handicap, ont une reconnaissance de la fameuse maison départementale des personnes handicapées. Donc là, il y a un vrai sujet dans le sujet, j'ai envie de dire.
Mais on voit bien le lien entre tout ça, puisqu'on peut dire que vous avez un tropisme pour le social et vous aimez vous occuper des situations difficiles qui ont besoin d'aide. Et effectivement, le handicap, on le sait, l'enfance, on le sait et on va en plus le découvrir ensemble. Vous avez apporté pour le handicap 113 propositions. Oui. Pour essayer de simplifier le parcours administratif, parce que souvent dans notre pays il y a beaucoup d'intentions puis il y a beaucoup d'obstacles.
Je l'expérimente de la même façon dans le champ de la protection de l'enfance. On a dans notre pays, au fil des ans, construit des systèmes d'une complexité incroyable. Et quand on se replace du point de vue de la personne, ce qu'on n'a pas eu tendance à faire dans notre pays. On aime bien se placer du côté de l'État, du côté de la structure ou de la superstructure, et assez peu culturellement de mettre la personne au centre.
C'est la thématique de santé, Est-ce que le parcours du patient, est-ce que les offres de soins sont par rapport à une demande de patient ou par rapport simplement à une offre qui correspond aux acteurs de santé qui sont bien là-dedans?
Absolument. Et ça, je pense que c'est un lien, ça a trait avec la construction de notre État. En France, qui s'est faite de façon assez verticale et de haut en bas et non pas l'inverse. Et avec, par ailleurs, dans l'histoire de la construction de notre État et de notre République, une défiance aussi pour l'individu, pour les corps intermédiaires, etc. Bon. Voilà, mais on va pas se refaire l'histoire de la République française. Pour autant.
Ni des gilets jaunes.
Ni des gilets jaunes. Pour autant, se double en plus dans le cadre de nos politiques sociales. D'un deuxième phénomène qui est celui de la décentralisation.
Voilà. Parce qu'en fait, en 1983, il y a une loi qui décentralise
les politiques sociales, qui confient aux départements les différentes politiques sociales que peuvent être la politique du handicap, la politique de l'enfance, mais également la dépendance, ou encore, quelques années après, le RSA, la gestion en tout cas du RSA, parce que tout ça se fait à des niveaux différents. Mais effectivement, ce sont des politiques qui sont partagées. Alors quand vous additionnez d'une part une propension que nous avons dans notre pays à construire des systèmes en silos, et que vous y adjoignez à côté de ça la décentralisation, c'est-à-dire avec deux niveaux, le niveau étatique et le niveau local décentralisé, eh bien vous créez des parcours d'une extrême complexité pour les usagers, où se crée entre les différents niveaux des interstices. Et souvent, quand vous créez des interstices, ben, les gens tombent dedans et ça fait des ruptures de parcours. Et qui, du point de vue de la vie des personnes, est souvent dramatique, parce qu'en plus, on parle là, que ça soit un enfant en danger ou une personne en situation de handicap, on parle de gens vulnérables. Et donc, tout de suite, quand ça grippe un peu dans la machine, c'est tout de suite dramatique.
On va voir tout à l'heure, avec le problème de l'adoption dans lequel on va parler, comme quoi, autour du département, il y a une espèce de frontière. Ici, on peut avoir des enfants adoptés, là, on peut avoir des parents qui souhaitent adopter, et puis ça passe pas à cause de cette frontière. Cependant, dans le projet que nous avons discuté, d'ailleurs, au cours de ces émissions, donc, avec vos prédécesseurs sur Matière à penser, à France Culture, il y a une tendance à vouloir régionaliser, à vouloir justement redonner en même temps aux locaux, qui peuvent le mieux connaître les besoins, par rapport à une centralisation qui est peut-être excessive. Donc,
mais vous avez tout à fait raison. Il faut se méfier de deux choses. C'est-à-dire qu'il s'agisse du handicap ou de l'aide sociale à l'enfance. Il y a 30 ans, souvenez-vous de la Cotorep d'un côté, ou de la fameuse DAS de l'autre, quand c'était centralisé, que c'était l'État donc qui gérait ça, c'était pas forcément mieux. Enfin, en tout cas, on n'en garde pas une image très très bonne. Donc, restons très humbles par rapport à ça. Et il ne faut pas confondre. Enfin, je veux dire, oui, être au plus près des besoins, être au plus près des spécificités des territoires, notamment de quelle est la réalité de l'offre de soins sur un territoire. Je pense que c'est une bonne chose. Pour autant, ça ne veut pas dire que l'État mais dans une fonction peut-être un peu différente, de pilote, plutôt de stratège, plutôt de contrôleur.
De coordination.
Absolument, doit complètement se retirer. Et je pense que c'est ça tout ce qui est en...
C'est cet équilibre
qu'il faut retrouver, revoir dans certains domaines, de façon différente d'ailleurs d'une politique à l'autre. Je pense que c'est tout ce qui est en jeu là en ce moment, notamment en sortie de grands débats. Parce que quand sur les ronds-points les gens vous disaient « vous êtes éloigné de nous, vous êtes trop loin de nous », à qui parlait-il ? Est-ce qu'il parlait à l'État ou est-ce qu'il parlait à la région ou au département ? Je pense qu'eux-mêmes ne savaient pas pourquoi ils parlaient, non pas parce qu'ils ne savent pas, parce qu'une fois encore, le système est tellement complexe que les gens ne comprennent plus rien. Donc oui, il faut se rapprocher des gens, mais je pense que l'État quand même a, et là on peut se parler de l'enfance plus particulièrement, l'État doit être aussi au rendez-vous de ses propres responsabilités. Et une des responsabilités, si on est au cœur du régalien pour l'État, c'est de garantir les droits fondamentaux des personnes et les droits fondamentaux des enfants en l'espèce. Et c'est ce rôle-là qui aujourd'hui, en matière de protection de l'enfance, n'est pas garanti. Il y a notamment le principe d'égalité, qui est quand même au cœur de notre devise républicaine, qui fait le lien entre la liberté et la fraternité. En tout cas, peut-être l'équité de traitement qui aujourd'hui n'est pas garantie.
Qu'est-ce que vous avez en tête?
Aujourd'hui, vous n'êtes pas en danger de la même façon quand vous êtes un enfant et que vous vivez à Lille ou à Marseille. Parce que les grilles, les critères des informations préoccupantes qui vont déclencher un signalement ne sont pas les mêmes. Parce que chaque département a sa propre grille d'analyse et d'évaluation.
Donc en fait, vous souhaitez...
De la même façon, sur le handicap, que vous parliez de frontières tout à l'heure. Mmh. Oui, les frontières départementales sont des frontières administratives. Pour les gens, ça ne veut pas dire grand-chose. Aujourd'hui, que vous naissiez à 1 kilomètre à droite ou à gauche d'une frontière administrative, votre vie ou la vie de votre enfant autiste, par exemple, peut partir à droite ou radicalement à gauche et peut être de prendre deux tangentes totalement différentes. À un moment dans notre France, enfin, pour qui croit à une France un minimum unitaire, qui garantit à minima une équité de traitement, il y a besoin que l'État joue ce rôle de garant de l'équité de traitement. Ce n'est pas le cas aujourd'hui.
Alors, quel est finalement, Adrien Taquet, le champ de votre responsabilité? L'enfance, pour vous, ça va de zéro, ça c'est certain, on peut pas descendre plus bas. Enfin, encore qu'on
va parler de la grossesse, bien sûr.
Mais jusqu'à 18, 21.
Alors, là, on est dans la jeunesse et j'ai effectivement un autre collègue qui est Gabriel Attal qui s'occupe de la jeunesse, mais plus du volet côté éducation puisqu'il est rattaché à Jean-Michel Blanquer. Non, vous le disiez en introduction, moi, j'ai pas mon décret d'attribution, je n'ai pas d'attribution particulière, tout comme Christelle Dubos, on est secrétaire d'État auprès d'Agnès Buzyn. Et donc, on a vocation à travailler sur tout. Après, effectivement, le président de la République, au moment de ma nomination, a quand même, le Premier ministre, ont particulièrement fléché mon secrétaire d'État sur la protection de l'enfance, mais qu'il faut pas entendre. Je suis pas le ministre de l'ASE, de l'aide sociale à l'enfance. Je suis le ministre plutôt de l'enfance, des droits des enfants et de comment faire en sorte qu'on les garantit. Donc oui, ça va de zéro, peut-être même dès le quatrième mois de grossesse, on y reviendra, jusqu'à l'adolescence peut-être, ou jusqu'aux 18 ans. Et ça concerne tout ce qui peut toucher aux enfants et à leurs droits. Donc la lutte contre les violences. Et puis en amont de ça, quand on parle des enfants, on parle, ou il faut en tout cas, peut-être plus encore, parler des parents.
Des parents, bien sûr.
Puisque la relation, on va y revenir, mais toute une approche de prévention dans la protection de l'enfance qui consiste à en réalité accompagner les parents dans leur projet d'être parents. Et ce, probablement dès avant qu'ils soient parents. Et c'est là où on revient sur l'avant-naissance, c'est-à-dire dès le quatrième mois de grossesse, en fait, qui est un peu le moment où on peut commencer à accompagner les parents, et notamment au sein d'une approche, d'un concept des 1000 jours. Hein, c'est ce fameux concept des 1000 jours qui vient notamment, en tout cas, qui ils en œuvrent pas mal dans les pays nordiques. D'ailleurs, je me déplace en Finlande d'ici une petite dizaine de jours pour aller voir quelle est leur politique d'accompagnement parental. Mais voilà, c'est 1000 jours, là où tout se joue, c'est-à-dire du quatrième mois de la grossesse jusqu'aux 2 ans de l'enfant. Et on sait que ce moment-là, l'enfant est vulnérable, et donc il y a beaucoup de choses qui se jouent s'agissant de sa santé, de son développement. Et on sait que c'est aussi là que des inégalités sociales peuvent se creuser. Et donc, c'est vraiment en ligne avec notre projet politique, si je peux me permettre de parler un peu de politique, mais c'est là, c'est
la bonne politique.
La
oui.
bonne politique, voilà, je pense. Et ça, c'est aussi mon engagement, moi. Hein. Moi, vous tentiez de me réduire à mon passé de communicant, mais bien avant encore, non, je plaisante, mais avant, j'ai fait un peu de politique et auprès de l'espèce de Dominique Strauss-Kahn, on était en 2002 à l'époque, hein, et on avait, il avait théorisé quelque chose qui s'appelait le socialisme de production. Bref, c'était de se dire que les inégalités, on peut les diminuer, certes en redistribuant, comme on le fait, par l'impôt, etc., par les prestations, mais peut-être aussi en s'attaquant aux inégalités dès le moment où elles se produisent.
Alors justement.
Et c'est ça. Et donc, voilà, je crois que le projet politique que nous menons, c'est de lutter contre les inégalités de destin. C'est d'essayer de rétablir l'inégalité des chances, voilà, dès le plus jeune âge. Et donc, c'est pour ça que cette politique-là est fondamentale.
Moi, je suis vraiment frappé à Paris. Et surtout là, on va le voir, on va le revoir avec les beaux jours, on va dire, des familles avec des enfants qui sont sur le trottoir.
Ouais. Oui.
Et je me dis, mais enfin, alors j'avais reçu d'ailleurs Xavier Manuelli, et pas mal de personnes qui se préoccupent, et vous vous préoccupez, je me préoccupe, mais c'est vrai que les enfants, qu'est-ce qu'on peut faire de ces enfants des rues que l'on trouve dans nos capitales?
Alors, déjà, ne pas s'habituer et ne pas se résoudre. Non, mais parce que...
Mais c'est vrai que ça fait partie maintenant du paysage quasiment. Mais
bien sûr. Enfin, et c'est terrible au fil des ans et d'une situation qui s'aggrave. On a tendance à le banaliser, à ne pas vouloir le voir. Donc, vous avez raison et merci de mettre ce sujet sur la table. Et voilà, et de se dire qu'il faut rester alerte et ne pas accepter ça. Ces enfants sont en danger.
Mais oui.
En réalité.
Mais je suis tout à fait
d'accord. Ces enfants sont en danger. Et je pense qu'il ne faut pas craindre d'appréhender le problème sous cet angle-là.
Mmh,
c'est-à-dire qu'on met des enfants en danger. Alors après, il y a plein de raisons qui les expliquent. Il y a plein de cas individuels, même si on sait qu'il y a aussi des pratiques collectives, des réseaux qui parfois peuvent agir
derrière. Bien sûr.
Mais bon, voilà, je ne veux pas porter de jugement, parce qu'il y a aussi des idées, des histoires individuelles, des trajectoires, etc. Mais toujours est-il que ces enfants sont mis en danger. Dans le cadre du plan pauvreté, du plan de lutte contre la pauvreté, il y a déjà un dispositif, justement, qui cherche à s'attaquer à ce sujet. C'est ce qu'on a appelé les maraudes mixtes. Ce sont des maraudes mixtes entre les services de l'État et les services associatifs qui vont à la rencontre de ces mères, souvent, avec leurs enfants, pour leur apporter un accompagnement renforcé qui couple de l'hébergement et de l'accompagnement social. Et pour essayer de sortir ces enfants de la rue, parce qu'effectivement, on ne peut pas... C'est une situation qui n'est pas acceptable, mais c'est la mise en jeu des enfants.
Je vous pose une question précise. Pour les adultes, les maraudes viennent, proposent, et c'est les adultes qui disposent. C'est-à-dire, ils y vont ou ils y vont pas.
Ouais.
Et là, on a le respect de la liberté, enfin, on peut en discuter, mais enfin, disons que c'est comme ça.
Ouais.
Mais justement, pour les enfants, Est-ce que s'il y a un refus, parce qu'il y a des refus pour des problèmes d'exploitation, oui, oui. Des problèmes divers et variés, parce qu'on n'a rien à leur proposer de correct, je ne sais pas. Mais est-ce que là, la notion justement que vous abordez et que moi je ressens de danger pour les enfants ne devrait pas être prééminente ?
Mais dans les dispositifs tels qu'on est en train de les expérimenter, puisque c'est des expérimentations qui sont lancées alors à Paris, qui déjà était dans cette démarche-là, hein, mais aussi à Rennes, dans la métropole lyonnaise, bref, tout ça est en train de se déployer. La finalité est bien de protéger l'enfant.
Absolument.
Et donc, s'il y a un refus, de la part de l'environnement familial de retirer cet enfant de la rue, on peut aller jusqu'à protéger l'enfant.
Voilà, moi ce que j'allais dire, si vous voulez, c'est que...
Mais la démarche, si vous voulez, il faut pas, je pense qu'il est important de ne pas être dans une démarche
coercitive,
punitive.
A priori,
voilà, l'idée, c'est vraiment, c'est l'accompagnement, parce qu'on sait la difficulté qu'il y a aussi à sortir de la rue, donc c'est un accompagnement social, mais qui, in fine, a pour objectif de sortir les enfants de la rue, et il y a déjà les dispositions légales, réglementaires, existent, hein, bien sûr, pour qu'on puisse protéger ces enfants.
Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que de temps en temps, dans une maternité que je connais bien, évidemment, dans la vie d'une maternité, de temps en temps, il y a des décisions qui sont prises par le juge, d'ailleurs, de retirer l'enfant à la maman qui vient d'accoucher, parce qu'il y a une situation de danger pour l'enfant. Oui. Et ce que je me disais, mais justement, est-ce que dans ces situations de rue, on ne peut pas considérer que là ou là, peut-être pas partout, mais enfin là ou là, il y a danger, et que du coup, c'est ça qui prime, et qu'il faut être peut-être un peu plus coercitif, entre guillemets.
Mais vous avez raison, c'est la démarche dans laquelle on s'inscrit, mais toujours en mettant au cœur l'accompagnement social. Mais le cas que vous évoquiez, il y a effectivement certaines maternités où les femmes restent très longtemps à la maternité, parce qu'on sait, compléter, mais on sait que si on les laisse sortir,
elles vont être dans la rue.
Terminer à la rue.
Bon, ou dans l'hôtel.
Donc il y a probablement par ailleurs un travail... une meilleure articulation, un travail
médecine,
à faire
médecine entre sociale.
Médecine et médecine sociale, les maternités, les dispositifs qui créent des SAS, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas ce risque-là. Oui.
Puisqu'on parle maternité, je reviens sur l'examen du quatrième mois de grossesse, que je connais bien, se trouve... Non, mais je le connais bien pour une raison, c'est que j'étais conseiller de Bernard Kouchner à l'époque, où on a proposé ce quatrième mois.
D'accord.
Donc je connais pour l'avoir disséqué à l'origine. C'est un semi-échec, parce que normalement, c'est un examen qui est fait pour justement voir la totalité de la personne enceinte qui est en face de nous, avoir plus de temps qu'une consultation standard qui dure quelques minutes. Mais là, elle est plus longue, elle doit être vécue plus longue, mais elle est plus chère au sens du médecin ou de la sage-femme qui va la faire. Et il y a eu un petit dérapage, c'est que voilà, on est revenu à des temps anciens, alors que le temps devait être long pour appréhender la totalité de la personne qui est en face de nous et de sa situation sociale. Et c'est vrai que beaucoup de pédopsychiatres, je dirais, peut-être n'ont-ils pas suffisamment la parole, mais je pense à des gens comme l'association La RIP, que vous connaissez peut-être, dans le sud de la France, avec Dunia, je dirais, à Marseille, d'autres pédopsychiatres qui se préoccupent de tout début avec... Avec le quatrième mois,
hein,
parce que c'est là qu'il faut être, et puis continuer, bien entendu. Donc cette volonté d'informer, d'accompagner dès le début, là où il y a danger,
absolument,
là où il y a problème, pas
absolument
forcément à tout le monde,
non.
Mais je dirais bien cerner, parce que après ça s'accumule. D'ailleurs, je crois que vous disiez lors d'un précédent interview que la 25%, je crois, des gens qui sont dans la rue ont été des enfants qui
sont passés par l'aide sociale,
à l'enfance. Ce qui veut dire que voilà, c'est tellement fondamental, quoi, je dirais, de pouvoir accompagner.
Mais j'ai le temps de rebondir sur ce que vous.
Mais absolument au contraire.
Non, vous avez tout à fait raison, et merci de partager votre expérience et votre regard sur le sujet. C'est quelque chose effectivement qu'on prend en considération. Je parle du quatrième mois, c'est à la fois la durée de la consultation, et puis aussi ce qu'on aimerait, c'est généraliser cette consultation, parce qu'aujourd'hui, de mémoire, ce n'est que 40% des femmes qui y ont recours. Et effectivement, ce n'est que le début de quelque chose. C'est-à-dire ce à quoi on travaille aujourd'hui, c'est un parcours 1000 jours ou un passeport 1000 jours, je ne sais pas comment on l'appellera, qui effectivement doit permettre d'accompagner les parents, donc du quatrième mois et de cet examen prénatal jusqu'aux 2 ans de l'enfant, de les accompagner du point de vue de la santé, Mmh. Hein, donc effectivement, accompagner vers l'accouchement, veiller à la santé de l'enfant, mais aussi opérer un basculement vers une approche plus socio-éducative. C'est-à-dire que je pense qu'il faut aussi donner aux parents, pas à tout le monde, mais enfin, moi j'ai été aussi jeune père, premier père, et on m'avait pas forcément donné toutes les clés, mais je pense qu'il y a un certain nombre de choses au niveau éducatif qu'il faut que l'on amène aux parents. La question de l'éducation bienveillante, les violences éducatives ordinaires, expliquer aux parents comment, des choses très pratiques, mais auxquelles des parents sont confrontés. Quand on a un bébé qui pleure et qui ne cesse de pleurer, comment se comporter, que faire? Pourquoi il ne faut pas le secouer? Quelles conséquences cela peut avoir? La question de l'exposition aux écrans. Voilà, pas d'écran avant 3 ans. Bref, ce qu'on est en train de construire, c'est à la fois un ensemble d'informations, de nature, de point de vue santé, mais aussi socio-éducative, et puis aussi un ensemble de services. Voilà, quelles sont les grandes préoccupations des jeunes parents? Il y a la santé, mais il y a aussi le mode de garde, vous l'évoquiez tout à l'heure. Voilà, donc qu'est-ce qu'on bâtit comme offre comme ça pour accompagner les parents durant ces 1000 premiers jours? Voilà, ce passeport 1000 jours, hein, on est en train d'y travailler et on va faire des annonces d'ici l'été probablement ou à la rentrée au plus tard.
Oui, je vais tout à fait dans votre sens et vous le savez, c'est-à-dire que je pense qu'il faut qu'il y ait sur le plan intellectuel déjà, enfin sur le plan des idées, cette volonté de trouver un lieu, plusieurs lieux où se réunissent toutes ces Absolument. Volontés d'information, Absolument. De prévention, d'accompagnement, enfin que ça se diffuse pour que ça soit repris par d'autres. Parce qu'il y a un laboratoire d'idées.
Absolument. Hein,
je veux dire, ouais. des gens comme certains pédopsychiatres que je citais ont vraiment des choses à dire et il faut que ça diffuse. Il faut pas que ça reste dans leur coin. Donc c'est vraiment la responsabilité des parents, je dirais, et notre éducation. C'est ce jeu-là qu'on va discuter dans un instant, après avoir écouté, donc ne laisse pas traîner ton fils.
Ouais.
À l'aube de l'an 2000, pour les jeunes, c'est plus le même deal. Pour celui qui traîne comme pour celui qui file tout droit. De toute façon, y'a plus de boulot. La boucle est bouclée, le système à la tête sous l'eau. Et les jeunes sont saoulés, salis sous le silence. Seule issue, la rue, même quand elle est en sang, c'est pas un souci pour ceux qui s'y sont préparés. Si ça se peut, certains d'entre eux même s'en sortiront mieux. Mais pour les autres, c'est clair, ce sera pas facile. Faut pas se voiler la facile, il suffit pas de vendre des kills. Faut tenir le terrain pour le lendemain, s'assurer que les siens aillent bien. Éviter les coups de surin afin de garder son puits intact. Son équipe compacte, soudée, écoute de scanner pour garder le contact. Ou des idées de bouger, éviter les zones rouges. Surtout, jamais prendre de congés. C'est ça que tu veux pour ton fils, c'est comme ça que tu veux qu'il grandisse. J'ai pas de conseils à donner, mais si tu veux pas qu'il glisse, regarde-le. Quand il te parle, écoute-le. Ne laisse pas chercher ailleurs l'amour qu'il devrait y avoir dans tes yeux. Laisse pas traîner ton fils, laisse pas traîner ton fils. Si tu veux pas qu'il glisse. J'ai jamais demandé à t'avoir. C'est avec ces formules trop saoulées. Enfin faut croire que mon père a contribué à me lier avec la rue. J'ai eu l'illusion de trouver mieux, j'ai vu. C'est qu'un gamin de 14 ans avec le décalage de l'âge. Je veux entrevoir, c'était comme un mirage. Plus d'interdits, juste avoir les temps assez longs pour croquer la vie, profiter de tout ce qui tombe. La rue a su me prendre car elle me faisait confiance. Jusqu'y avec mon père était comme de la nuisance. Aucun d'entre nous n'a voulu recoller les morceaux. Toute tentative nous montrait qu'on avait vraiment trop d'ego. Mon père n'était pas chanteur, il aimait les sales rengaines. Surtout celles qui vous tapent comme un grand coup de surin en pleine poitrine. Croyant la jouer fine, il ne voulait pas, ne cherchait même pas à ranger ce putain d'orgueil qui tranchait les liens familiaux. Chaque jour un peu plus, j'avais pas l'impression d'être du côté qu'une caisse à larguer. Donc j'ai dû renoncer, trouver mes propres complices, mes partenaires.
France Culture, matière à penser, René Friedman.
Voilà, vous êtes sur France Culture, une émission en partenariat avec le quotidien du médecin, et nous sommes donc dans la série Modernisation du système de santé, et nous sommes en compagnie d'Adrien Taquet, secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé, chargé de la mise en place de la stratégie pour la protection de l'enfance.
Ouais.
C'est long, mais
oui,
ça veut dire...
vous rallongez un peu, chargé de l'enfance.
Voilà, mais ça veut dire qu'il y a aussi beaucoup de thèmes, et on vient d'en voir que quelques-uns. Mais voilà, nous sommes à France Culture et nous voulions aborder cette question. Mais d'ailleurs, vous connaissez bien, hein, je crois, France Culture. Vous avez passé...
Merci de me renvoyer dans ma propre enfance, en fait.
Voilà.
Ma mère a été, en fait, pendant 20 ans, je pense, ce qu'on appelle productrice à France Culture. C'est-à-dire, en fait, elle était à la place sur laquelle vous êtes, présentatrice, sur le théâtre. Voilà, elle avait des émissions de théâtre, avant-première, les mardis du théâtre.
Et vous veniez de temps en temps?
Et bah, tous les mercredis après-midi, parce que son émission était le mercredi. Et puis, moi, je devais pas être à l'école le mercredi, j'imagine. Donc j'ai des souvenirs de toute mon enfance à courir dans les ces couloirs courbés de la Maison Ronde. Non, je suis toujours très ému quand je viens ici. Je suis très ému de passer sur cette antenne.
Ben là, on va vous
et je la salue parce que je pense qu'elle nous écoute. Voilà.
Parfait. Écoutez, j'aimerais qu'on aborde parmi toutes les questions qu'on se pose le problème de l'adoption.
Ouais.
Qui est pour les gens qui s'occupent du traitement de la stérilité, je dirais un point très important aussi à essayer d'y voir clair, parce que beaucoup de gens, comme vous le savez, et nous n'arrêtons pas de le répéter, n'auront pas l'enfant désiré, parce qu'il y a des impossibilités, que nous ne sommes pas des magiciens, et que nous ne pouvons pas réaliser tous les désirs. Donc il y a des alternatives, il y en a beaucoup, mais parmi ces alternatives, il y a l'adoption. Et d'abord, combien d'enfants sont adoptables en France? Et ce bruit qui court que c'est pas possible d'adopter sauf des enfants qui ont des problèmes majeurs, c'est ce que vous appelez à besoins spécifiques.
Ouais. Hein. La façon des problèmes d'ailleurs, c'est qu'ils peuvent être âgés par exemple.
Et puis l'âge, les deux, ils peuvent être l'un ou l'autre.
Mais les besoins spécifiques, c'est soit le handicap souvent effectivement, et puis c'est un âge avancé effectivement qui ne correspondent pas à l'image du rêver, enfin idéaliser plutôt qu'ont les parents de...
Du poupon cadom qu'on
prend
tout
voilà,
de suite.
On veut lui changer ses couches, on veut pouvoir lui donner le biberon, bref, se recréer un peu cette fiction.
Qu'on peut comprendre.
Hein, oui, bien sûr. Mais alors, de toute façon, sur ces sujets-là qui sont intimes, profondément intimes, complexes, sensibles au sens humain, jamais je porterai le moindre jugement de valeur, évidemment. Écoutez, c'est un sujet sublime. Enfin voilà, vous le vivez vous aussi au quotidien. Moi, c'est un sujet que j'ai identifié dès ma prise de fonction et même un peu avant. Écoutez, en France, l'adoption, ça a longtemps consisté à essayer de donner un enfant à une famille. Mmh. Et moi, j'aimerais qu'on inverse un peu le paradigme et qu'on donne des familles à ses enfants.
Mmh.
Voilà. Et donc, il y a un vrai changement de perspective qui est déjà un peu inscrit dans la loi, notamment depuis la loi de 2016. Mais voilà, c'est pas la même chose, donner un enfant à une famille ou une famille à un enfant. Parce que oui, l'adoption, on doit faire en sorte dans notre pays que ça soit une possibilité offerte, plus simple, à des enfants qui ont eu des accidents de vie. Et aujourd'hui, c'est complexe, pour des raisons administratives, pour des raisons de représentation aussi, culturelles. Voilà, donc on va faire en sorte de faciliter l'adoption. Dans les autres pays, en Angleterre par exemple ou aux États-Unis, le ratio d'enfants adoptés sur enfants protégés, c'est en gros 5%. En France, c'est 0,05%, je crois. Voilà, donc il est très difficile quand on est dans un parcours de protection de l'enfance de pouvoir être adopté.
Mais est-ce que c'est pas parce que certains parents biologiques maintiennent un lien qui n'existe pas,
c'est une des raisons,
qui est quand même maintenu.
Vous avez tout à fait raison.
Et du coup, on peut pas mettre cet enfant dans l'opportunité d'être adopté.
Vous avez tout à fait raison. C'est un des freins sur lequel on travaille. Je ne dis pas que la solution est aisée, mais en tout cas, c'est un des freins sur lesquels on travaille parce que il y a effectivement ça. Si vous passez un simple coup de fil au cours de l'année pour prendre des nouvelles de votre enfant, eh bien, il ne peut pas y avoir de procédure de délaissement parental qui est consacrée.
Voilà. C'est-à-dire qu'un enfant adopté doit être pupille d'État.
Oui, absolument. Donc il faut qu'il y ait un délaissement parental pour qu'il puisse être
pupille d'État.
Voilà, absolument. Voilà. Et ça, c'est hérité aussi d'une conception française qu'on a eue pendant très longtemps, qui était en protection de l'enfance, le maintien à tout prix du lien biologique. Mmh. Il faut à tout prix faire en sorte de maintenir le lien biologique. Ce qui est une noble ambition en soi, bien évidemment, mais quand les parents sont toxiques, quand la relation d'une mère à son enfant est toxique, pour différentes raisons, des problèmes psychiatriques par exemple, enfin là aussi les situations sont multiples, il faut savoir couper ce lien et offrir à l'enfant la possibilité de faire famille différemment. Voilà. Aujourd'hui, il y a encore quelques freins, c'est ça qu'on va travailler.
Vous avez
aujourd'hui effectivement 2500 enfants pupilles. dont une grande partie ne trouve pas de parents, alors que par ailleurs, vous avez 13 ou 14 000 parents qui ont un agrément pour adopter, et que par ailleurs, l'adoption internationale, parce que là, on parle d'adoption nationale, est en train de se tarir, parce qu'il y a une convention qui fait qu'en gros, les pays doivent privilégier une adoption dans leur propre pays, et donc l'adoption internationale, il y a que 600 adoptions internationales par an en France aujourd'hui, et la trajectoire va
et continuer. Combien il y a d'adoptions intra-France?
C'est à peu près du malgré, c'est quelques centaines à peine. Voilà, à peine. Donc il faut qu'on facilite cela. Et effectivement, j'ai fait un déplacement dans le Pas-de-Calais il y a de cela 3 semaines où il y a un psychologue notamment qui s'occupe de qui est dans la cellule d'adoption du conseil départemental, hein, puisque là aussi c'est le conseil départemental qui s'occupe de ça. Et ils ont pris le parti de travailler sur les enfants âgés. Justement, ou a besoin particulier, donc avec en situation de handicap. Ils ont dit, voilà, nous, on va avoir une politique qui va promouvoir l'adoption de ces enfants-là. Et donc, ça nécessite de revisiter toute la doctrine d'adoption parmi les professionnels, et de développer notamment tout un discours et des outils auprès des parents candidats, voilà, pour leur expliquer que ça peut très bien se passer aussi si c'est pas un poupon de 3 mois avec lequel on va se refaire toute cette fiction du début. Voilà, et ça a des résultats formidables. Et j'ai rencontré des parents qui avaient adopté des enfants à 8 ans et d'autres qui avaient des troubles moteurs, hein, handicap moteur, et qui vous en racontaient et qui avaient dit qui me disaient qu'initialement ça avait été dur, mais que l'accompagnement qui avait été porté au final, les avait convaincus et que maintenant, c'était les parents les plus heureux du monde. Voilà.
Je reviens sur le maintien du lien biologique que vous évoquiez tout à l'heure et qui parfois peut être un frein. Parce que il passe devant tout, et même s'il n'y a pas de relation, il n'y a pas de relationnel, à partir du moment où il y a le lien biologique reconnu, on va le maintenir. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous allez aborder au gouvernement bientôt le problème de la levée de l'anonymat dans le cadre des dons. Et donc là, on voit bien qu'on est vraiment au cœur de qu'est-ce qui prime. Est-ce que c'est le relationnel ou est-ce que c'est le biologique? Et donc, on a envie de se dire, il faut vraiment qu'on ait une position commune par rapport à ça. Et bon, effectivement, c'est une des questions que j'aimerais bien discuter. Je ne sais pas si on aura le temps aujourd'hui, mais peut-être une autre fois. Après les lois de bioéthique que vous allez peaufiner, c'est celle justement de la levée de l'anonymat. Mais mettons en relation toutes les situations, que ce soit GPA, que ce soit adoption, que ce soit don, que ce soit la physiologie.
Et puis l'accouchement sous secret, parce que...
J'aime bien que vous apportiez ça, parce que vraiment,
bien sûr.
L'accouchement, vous savez, je vais avoir l'occasion de dire quelque chose que j'ai sur le cœur depuis longtemps. C'est que, en tant qu'obstétricien, il y a une vingtaine d'années, j'ai fait un certain nombre d'accompagnements et d'accouchements de patientes qui voulaient accoucher sous X. Et ce n'est qu'après coup qu'est venue la création du CNAOP, du Conseil national, qui autorise des enfants nés sous X à demander à ce que ce comité recherche la mère pour voir si elle n'a pas changé d'avis.
Absolument.
On peut comprendre les enfants. Mais moi, quand j'ai eu la mère et mes collègues, c'est pas moi, hein, vous voyez ce que je veux dire, on a promis juré que, de toute façon, on ferait tout pour que aller dans son sens et maintenir l'anonymat.
L'anonymat, oui.
Donc là, on lève l'anonymat de façon rétroactive.
Alors, s'il y a accord.
Vous voyez ce que ça remue.
Oui, bien sûr.
20 ans après, vous vous dites coucou, il y a quelqu'un à la porte, qu'est-ce que vous faites? Bon.
Non, mais il y a à la fois des volontés, des envies individuelles qui s'entrechoquent. Il y a des grands principes aussi qui s'entrechoquent, parce que si vous levez l'anonymat totalement pour l'accouchement sous X, il y a un certain nombre de personnes qui diront, et peut-être à raison, que ça remet en cause.
Non, hein,
non, mais parce qu'on pourrait aller, non, parce que certain nombre de personnes sur la tout ce qui est médical à la procréation disent, il faudrait lever l'anonymat, sauf que si vous le faites là, si vous voulez pas créer de distorsions et des régimes différents du point de vue de l'enfant entre celui qui est né d'une AMP et celui qui est né sous X, il faut homogénéiser les choses. Donc est-ce qu'il y a une levée de l'anonymat totale? Est-ce qu'on redemande l'accord à 18 ans? Si vous faites ça, ça veut dire peut-être que l'enfant, s'il y a un refus à 18 ans, en fait on lui aura promis qu'il pourra peut-être connaître ses origines pendant 18 ans et il se prend un mur à 18 ans. Et bien alors que le petit copain d'à côté, lui, a pu connaître ses origines. Donc il y a un problème d'égalité aussi qu'on peut poser. Enfin, je pose là, les grands principes, les grands cadres du débat sans avoir de référence définitive, mais pour dire qu'évidemment, c'est à la fois très sensible parce que ce sont des trajectoires individuelles et qu'on sent, qu'il y a une poussée sociale d'enfants qui nous disent, moi, je cherche pas un père ou une mère, je recherche juste une histoire. Voilà, pouvoir me raconter une histoire. Et puis d'un autre côté, il y a effectivement un certain nombre de choses à protéger, le don aussi, si tout d'un coup on lève l'anonymat, est-ce qu'il n'y aura pas une pénurie de dons? C'est une question qu'il faut se poser, et puis de la même façon pour les femmes, est-ce qu'on ne porte pas atteinte à ce droit fondamental d'une femme de pouvoir accoucher sous le secret, si on lève l'anonymat aussi à ce risque-là, est-ce qu'on ne lui porte pas atteinte? Voilà, bon, c'est un peu toutes les réflexions qu'on a en ce moment.
Vous avez raison, simplement ce que je dirais c'est qu'il faut qu'au début de la procédure quelle qu'elle soit, que ce soit l'accouchement sous X ou que ce soit le don d'ovocytes, pour tous les participants de cette histoire, il faut qu'ils soient au courant de l'engagement qu'ils prennent. Je veux dire par là qu'une femme qui accouche sous X, on lui dise, vous savez, peut-être que si votre enfant dans 20 ans cherche, il y a un organisme qui va, peut-être une plateforme informatique dans 20 ans, qui va peut-être vous permettre de mettre, et puis vous-même si vous souhaitez, parce qu'on ne sait jamais. Vous pourrez le faire de façon anonyme, mais sinon on vous protège. Enfin, qu'on dise les choses.
Vous avez tout à fait raison. Il faut que les règles elles soient claires et qu'elles soient stables. Pour autant, vous savez très bien.
Tout évolue.
Et ben voilà. Je ne sais pas s'il faut conclure comme ça, mais il faut être assez modeste et humble par rapport à ça. En 18 ans, les technologies peuvent évoluer de façon phénoménale, et ça veut dire que peut-être le cadre de réflexion protecteur que nous avons aujourd'hui sera totalement balayé dans 18 ans.
Alors, écoutez, on se retrouve dans 18 ans, le rendez-vous est pris, il n'y a aucun problème là-dessus. Puisqu'on parle un peu de fabrication d'enfants, entre guillemets,
avec des grosses guillemets.
Avec des gros guillemets, bien sûr, c'est pour attirer le chaland que je dis ça. Mais l'éducation sexuelle, elle est quand même terriblement en retard dans notre pays. Avant d'aborder justement les bébés génétiquement modifiés, les trois parents et tout ça. Encore que ça pose des questions aux enfants qui aimeraient bien avoir un lieu où tout ça peut leur être expliqué. Mais qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est dans votre escarcelle, bien que ce soit dans l'éducation nationale, est-ce que vous avez un point de vue par rapport à mettre en place un système d'éducation qui concerne plus la sexualité, la reproduction et justement les aléas, contraception ou pas, et etc.
Alors c'est effectivement beaucoup du ressort de Jean-Michel Blanquer et on en parle et on y travaille ensemble. C'est un sujet qui est complexe parce que d'une part parce qu'on demande beaucoup de choses à l'éducation nationale globalement. Il faut à leurs enseignants, faut le reconnaître parce que ce sont des sujets sensibles, ce sont des sujets aussi qui parfois font un peu sursauter les parents, qui sont partie intégrante de la communauté éducative. Bon, voilà. Donc il faut qu'on avance là-dessus, parce que oui, je pense qu'il faut avancer sur deux volets, mais encore, c'est améliorer l'existant. Je pense que il faut effectivement se reposer la question de l'éducation sexuelle pour que ça soit probablement mieux mené. Et puis il y a la question des, alors, ça va de pair et puis pas totalement non plus, mais la question des violences sexuelles.
Bien sûr.
Et il y a une question de sensibiliser les enfants à un très jeune âge, enfin c'est mon point de vue, sur les violences sexuelles dont ils peuvent être victimes. Voilà, il y a un vrai sujet à cet égard auprès des plus jeunes. Il y a en France chaque année 20 000 plaintes pour des violences sexuelles contre enfants. Donc 20 000 plaintes, donc vous faites x 5, x 6, peut-être x 10 sur une réalité. C'est phénoménal. Vous avez en France 4 millions de personnes, donc c'est pas que des enfants, ça leur est arrivé dans leur enfance, mais 4 millions de personnes sur la population générale, ça fait 6% de la population, c'est à peu près la même chose que dans le reste du monde, qui ont été victimes d'inceste. Puisque 80% des violences ont lieu dans un cadre familial. Donc il y a un vrai sujet de sensibilisation, de formation des professionnels, à l'école mais aussi ailleurs, sur la détection, le repérage, de sensibilisation des enfants à ces questions-là. Et on a un vrai sujet autour de la parole dans notre pays, la parole des enfants, la libération de la parole, pour qu'on crée les conditions pour que qu'un enfant qui a été victime le dise, qu'il ait des adultes en face de lui qui écoutent cette parole. Le recueil de la parole, très compliqué de recueillir la parole d'un enfant de 4-5 ans, de savoir s'il dit la vérité ou pas. la protection de cette parole. Aujourd'hui, dans une procédure judiciaire, on est en train d'y travailler, ça c'est en train de changer. Un enfant qui est victime peut avoir à répéter devant la gendarmerie, le juge, bref, 6 ou 7 fois ce qui lui est arrivé. C'est-à-dire qu'il revit 6 ou 7 fois l'agression sexuelle dont il a été victime. Et puis une question de crédibilité de la parole. Outreau a fait des ravages.
Bien sûr.
Ravages. Mais la question, il faut qu'on réinstaure la crédibilité de la parole des enfants. Moi, j'ai fait deux grands débats des enfants, avec des enfants, je vous dis ça, je raconte rapidement. Il y en avait un notamment, il y a une centaine de gamins, travaillaient par petits groupes, et un petit groupe travaillait sur les questions des violences. Et là, ils m'ont dit, monsieur le ministre, je voulais vous dire avant de poser une question, que là, le petit groupe de 25, on a tous été victimes pas de violences sexuelles, mais de harcèlement scolaire. Ah bon, je pose la question aux 75 autres, oui, bah nous aussi, et ça. Et là, la petite Emma de 9 ans me dit, mais vous savez, monsieur le ministre, le pire, c'est qu'en fait, on l'a tous dit, et personne ne nous a cru. On a tous dit, ouais, c'est pas grave, c'est des jeux d'enfants, ça va passer. Voilà. Donc la question du recueil de la parole, de la crédibilité de la parole, est fondamentale.
Une dernière question avant qu'on se sépare, par rapport à l'adoption, parce que j'ai oublié de vous la poser tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une discrimination par rapport à des couples homoparentales ou mono ?
Monoparentales. Écoutez, il y a un rapport de l'Inspection Générale des Affaires Sociales qui est sorti il y a un mois, parce qu'il y avait eu une affaire en Seine-Maritime avec une responsable du service adoption du département qui avait dit que de toute façon, les familles homoparentales, il n'y avait que des enfants âgés ou en situation de handicap qui leur étaient réservés. Bon, donc on a lancé une inspection. On a vu que il n'y avait pas de système de discrimination institutionnalisé, mais que pour autant, il fallait probablement revoir un peu les procédures, ouvrir un peu les fenêtres, remettre un peu de transparence et de clarté dans tout ça. Donc j'ai fait trois choses. D'une part, j'ai demandé au Conseil national consultatif d'éthique de me rendre un avis. Je l'ai saisi pour qu'il me rende un avis sur cette question-là. J'ai fait de la même façon avec le Conseil national de la protection de l'enfance. J'ai par ailleurs demandé à ce que soit rédigée une charte éthique qui soit signée par tous les membres des conseils de famille qui travaillent sur l'adoption, voilà, pour rappeler des principes qui sont principes fondamentaux de bon sens. Et puis par ailleurs, j'ai lancé une mission sur l'adoption qui a un périmètre bien plus large que celui que vous évoquez, mais qui va notamment traiter de ce sujet-là et me formuler des recommandations à la rentrée prochaine.
Monsieur le ministre Adrien Taquet, merci de votre participation. Je n'ai pas pu vous poser toutes les questions que je voulais. Ça veut dire, vous avez bien compris, voilà.
Parfait.
Vous serez réinvité et comme vous connaissez la maison, vous pouvez y aller les yeux fermés. Cette émission a été rendue possible grâce à Sandrine Chaperon, Catherine Donnet, Joséphine Lampréa, Dany Journeau, Manuel Couturier, qui ont été fidèles au poste, comme toujours, puisque c'est notre dernière émission. Mais je vous signale tout de suite que les émissions de Matière à penser, médecine et société vont repasser pour certaines d'entre elles au cours de la grille d'été. Donc vous n'êtes pas laissés à l'abandon. Voilà. Maintenant, le site internet franceculture.fr est également prêt à recevoir vos appels et vos demandes. Merci à tous.